Jérusalem est en ruine. Voilà que depuis 597 avant notre ère, Nabuchodonosor, par deux fois, est venu étendre l'ombre de l'Empire, la domination et la destruction sur Israël et sur Jérusalem. Voilà que le temple est détruit, le rempart est détruit, la ville est livrée au chacal, la ville est livrée à qui veut la prendre. Est-ce que le peuple d'Israël, qui avec sa foi en une terre, une capitale avec un temple et une souveraineté avec David et sa descendance, est-ce que tout est fini dans ces ruines de Jérusalem? Et c'est là que l'empire de Babylone se révèle n'être qu'un colosse au pied d'argile. Un nouvel empire se lève, les Perses et Cyrus, qui permet, en dominant Nabuchodonosor, en dominant Babylone, permet le retour de certains des exilés, pas tous, et plus tard, la reconstruction du temple. Alors, frères et sœurs, nous avons entendu dans cette première lecture comment justement, par la volonté de Dieu, maître de l'histoire, et qui nous dit aujourd'hui, n'ayez pas peur, les empires, ce n'est pas moi. Et nous voyons qu'une petite troupe de retour à Jérusalem, dans ces ruines devenues froides, non pas ces ruines brûlantes de notre actualité, les ruines auxquelles on s'est habitué. Et Jérémie, qui est resté à Jérusalem, nous dit « Mais les jeunes ne sont plus dans les rues, ils ne chantent plus comme la chorale, l'Odamission. Les filles ne dansent plus, la tristesse s'est abattue comme une chape sur le monde. » Eh bien non, une petite troupe rassemble des bouts de bois, des vieilles planches et monte une estrade. Sur cette estrade, Esdras, le scribe, va venir avec le livre, la Bible. Car il a fallu que les scribes, dans cette dispersion d'Israël, mettent par écrit les anciens écrits, la grande histoire depuis Abraham, la traversée de la mer Rouge et la traversée du désert pour arriver en terre promise. Il a fallu écrire toute cette histoire. Il a fallu écrire la loi qui permet au peuple de vivre à travers les catastrophes, à travers les déserts. Mais le peuple n'a pas écouté la parole. Et même dans la terre de la promesse, où coule le lait et le miel, il n'a pas su instaurer une vie heureuse pour tous. Alors, Esdras, avec le livre, monte sur cette tribune de fortune, sur la place des eaux, où plus tard, lors de la fête des tentes, Jésus s'écriera « Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il vive. » Car nous sommes dans le désert, on reconnaît que la parole de Dieu fait vivre. Voilà que cette parole est proclamée et elle rassemble. Elle rassemble. Et mieux que le temple, où les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre, on ne sait pas où sont les enfants. les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, sont réunis autour de cette parole. C'est cette parole qui nous rassemble en vérité. Et cette parole, elle est proclamée du matin jusqu'à midi et pendant 7 jours de suite. Et le peuple est debout devant cette parole et la reçoit, la boit, la vit. Et c'est cette parole qui donne la vie. Et cette parole est proclamée en hébreu, c'est la langue du peuple, la langue des anciens récits. Et elle est traduite, vraisemblablement, en araméen, cette langue que les exilés ont apprise dans les différents lieux de la diaspora juive. Elle est traduite, elle est commentée. Et les Lévites, tout un groupe, toute une équipe, sont là autour d'Esdras pour traduire et pour commenter, pour que tous comprennent. On a même la liste de tous les Lévites qui ont traduit cette parole. Donc voilà, cette parole est faite pour vivre. Cette parole est faite pour être proclamée. Cette parole est faite pour rassembler. Cette parole est faite pour donner la vie, parce que quand on comprend une parole qui vient de Dieu, alors toute vie est possible. Et c'est pourquoi, devant la force de vie de cette parole, le peuple commence par pleurer. Pourquoi pleure-t-il ? Entre toutes les interprétations de ces larmes, je vous propose celle-ci. Le peuple pleure parce qu'il se rend compte que si il avait écouté la parole, s'il avait mis en pratique cette parole, alors il n'y aurait pas de ruine de Jérusalem. Ce sont des larmes de repentir, de bonnes larmes qui creusent dans notre cœur un espace nouveau. Et si j'avais écouté la parole de vie? Et si cette parole avait donné un sens à ma vie jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, je n'en serais pas là. Eh bien, il n'y aurait pas tous ces perdus de la parole et du sens de la vie qui peuple notre monde. Il n'y aurait pas cette tristesse qui fait qu'il n'y a presque plus d'enfants dans nos sociétés. Il y aurait la joie, il y aurait le bonheur, il y aurait le vivre ensemble, il y aurait communauté, il y aurait fraternité. Mais Esdras se lève et leur dit: voilà, les larmes de repentir, elles ont une fin. Je vous propose la joie. Elle est là, au milieu de nous, cette parole. Et la joie du Seigneur, conclut la lecture que nous venons d'entendre, est notre rempart. C'est par la joie que nous allons protéger le bonheur. Et au centre de l'histoire, nous avons entendu l'Évangile. Saint Luc qui nous décrit avec précision ce moment au centre de l'histoire où la parole de Dieu est devenue l'un de nous, Jésus de Nazareth. 40 ans après que César soit devenu Auguste et ait demandé un culte, le nouvel empire romain. Et 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus, le temple de Jérusalem reconstruit va être détruit au centre de l'histoire. Voilà que Dieu vient parmi nous pour nous éveiller à la joie. Et c'est ce que Jésus fait. Il dit: toute la joie que les prophètes ont annoncée elle est là aujourd'hui en moi. Je suis là pour que vous retrouviez la joie du salut, la joie de vivre, la joie du royaume, la joie partagée aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tous et jusqu'aux limites du monde. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons un temps de grâce. Nous avons la possibilité d'avoir une Bible bien éditée, surtout la Bible de Jérusalem. Une Bible bien éditée, bien traduite, avec des outils pour que nous puissions comprendre cette parole. Des outils pour que nous puissions comprendre chacun dans sa lecture, mais aussi en groupe, que nous puissions apprendre cette parole de Dieu. Et ensuite, nous avons la possibilité aussi très facilement de nous nourrir de cette parole pour en devenir témoin. Non pas pour nous nourrir tout seul, pour en devenir témoin et devenir justement propagateur de cette joie, à commencer par les plus petits, ceux qui sont les plus écrasés et qui ont soif de vie et de joie. Alors je vous propose trois choses pour terminer. Premièrement, je vous félicite. C'est pas souvent qu'on vous félicite, parce que vous venez à la messe du dimanche et que c'est bien, et que depuis la réforme de Vatican II, la parole qui est proclamée le dimanche, les trois lectures et le psaume, ont une extension qui nous permet d'entrer complètement dans l'Évangile. Une bonne nouvelle. Mais si vous pouviez préparer à l'avance ces trois lectures, je vous le propose. Vous pouvez préparer seul, vous pouvez le faire mieux en famille et vous pouvez le faire en fraternité paroissiale. C'est the must, le top. Venez dans les fraternités paroissiales pour pouvoir vivre cette parole, la préparer, la comprendre ensemble et la vivre en fraternité. Ensuite, vous avez, et c'est facile, par les petits livrets, Prions en Église, Magnificat, et sur votre téléphone, AELF, vous avez la possibilité d'avoir la lecture, les lectures de la parole de Dieu pour chaque jour. Lisez-la le matin seul, priez-la le soir en famille. Et enfin, et vous l'avez compris, eh bien que les fraternités paroissiales qui vont devenir de plus en plus nombreuses dans notre paroisse puissent devenir missionnaires et porter ce que chaque baptisé qui est prêtre, prophète et roi doit faire dans sa vie, être transformé par cette parole et porter la joie au monde qui en a tant besoin. Amen.